Merci à Lionel de s'approcher. Je le laisserai se présenter, mais je veux tout d'abord prier pour lui. Seigneur Jésus, aide Lionel à nous transmettre ce que tu as mis sur son cœur pour nous. Et que ta parole nous rejoigne chacune et chacun et nous conduise à t'aimer davantage et à te servir mieux. Pour ta gloire. Amen.
Le micro sans fil n'a pas joué. On peut lancer le PowerPoint. C'est parfait. Et Valérie, maman, vous me rejoignez juste pour la présentation? Venez. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Lionel Jumelfarb. J'ai le plaisir aussi d'être accompagné ce matin par Valérie, mon épouse depuis 11 ans. Nous habitons actuellement en Valéation et, comme vous allez l'entendre plus tard, nous partirons dès que possible en région parisienne pour servir avec Juifs pour Jésus. Nous sommes un foyer multiculturel. De mon côté, ma maman est moitié suisse, moitié anglaise, et mon père est un juif argentin, dont les origines de la famille remontent à l'Europe de l'Est, Ukraine et Biélorussie, ce qui fait un joli mélange entre du sang suisse pour les enfants, du sang suisse allemand, argentin, anglais, etc. Voilà. Plusieurs langues aussi parlées à la maison, français, suisse, allemand. Pour l'instant, on s'en arrête là. Donc, j'ai ces dernières années exercé la fonction de pasteur implanteur et à côté de cela, d'instructeur de fitness. Je suis passionné par les contacts, nous sommes passionnés par les contacts. Valérie a travaillé comme réceptionniste d'entreprise. De nouveau, beaucoup de contacts avec des gens, c'est ce que j'aime. Et c'est une partie de cette passion que j'aimerais vous transmettre ce matin à travers le message. Nous avons 3 enfants, Luca, Marc et Noah, que vous avez vu, que vous allez voir après, plein d'énergie aussi. N'hésitez pas, ils s'approcheront certainement de vous, ils sont très sociables aussi. Comme on dit, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Voilà. Et donc, à partir de septembre, je serai missionnaire avec la mission Juifs pour Jésus. J'aurai le plaisir de servir en région parisienne. Après quelques années à la tête d'une église, d'une implantation, je retourne dans là où est vraiment le cœur de mon cœur, on va dire comme ça, le témoignage. J'ai déjà travaillé quelques années avec Campus pour Christ, ici à Lausanne, dans ce domaine, les projets d'évangélisation. Voilà. Et voilà. J'aimerais, on va rester au niveau de la Bible sur un verset. Vous pouvez ouvrir votre Bible sur l'Épître aux Romains, au chapitre 1, le verset 16. Les autres versets seront projetés, mais celui-ci, si vous l'avez une Bible, ouvrez-la, j'aimerais vous le lire. C'est un verset qui me touche beaucoup. C'était d'ailleurs le verset de notre église à Montreux, où nous avons fait plusieurs années durant mes études, quand nous nous sommes mariés. Valérie était dans cette église, je l'ai rejoint. Et c'est un verset que j'apprécie particulièrement. Paul dit « Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. » Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. J'aimerais prendre ce verset peu à peu. Donc, Paul dit juste avant qu'il n'a pas pu se rendre lui-même à Rome, qu'il a essayé plusieurs fois. Pourquoi ? Parce qu'il aimerait annoncer l'évangile dans cette ville. Il s'adresse à des chrétiens qu'il n'a pas vus, mais il leur dit « Je suis là ». Et j'aimerais annoncer l'évangile, j'aimerais venir annoncer l'évangile dans votre ville. Et il continue, et c'est le premier point, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. Je pense que si on fait le tour de la salle et qu'on demande, est-ce que tu as honte de l'évangile? Je crois que personne ne dirait oui. Alors, c'est quoi avoir honte de l'Évangile. J'aimerais vous illustrer ça peut-être par un petit exemple. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou une sorte de parabole, mais je crois qu'elle est assez parlante. Il y avait dans un bureau deux collègues qui travaillent ensemble depuis des années. Et un jour, un des deux collègues arrive dans le bureau. Et on va remonter un peu en arrière. Le premier collègue est un chrétien, quelqu'un qui est engagé dans son église, qui aime le Seigneur. Il a essayé un peu de parler à son collègue, parfois, mais ça n'a pas été très réceptif, donc il se contente de prier pour lui et de demander que Dieu le touche. Et les années ont passé. Et un matin, le collègue arrive, tout excité, celui qui n'est pas chrétien. Et il arrive vers l'autre et lui dit, « Tu sais quoi, j'ai fait une découverte fantastique, j'ai fait une rencontre avec Jésus, il a transformé ma vie, je suis devenu chrétien, c'est génial, ça a tout changé. » Et l'autre affiche un grand sourire et lui dit, « Ah, mais c'est chouette, tu sais, moi aussi je suis chrétien. » Et la réaction de l'autre n'est certainement pas celle à laquelle il s'attend. L'autre a le visage qui s'assombrit bien fort. Et voilà ce que dit ce collègue. Mais comment, toi, tu es chrétien? Et tu m'as laissé perdre toutes ces années? Tu ne m'as jamais parlé de Jésus? Tu m'as laissé vivre ma vie sans lui? J'ai perdu toutes ces années alors que j'aurais pu déjà maintenant vivre cette chose fantastique? Tu es vraiment le dernier des égoïstes. Peut-être que avoir honte de l'Évangile, et c'est probablement ce que Paul veut dire, c'est simplement se taire. Se taire alors que l'on devrait parler. Je ne parle pas de parler tout le temps à chaque phrase de Jésus. Si vous travaillez dans un bureau ou autre, ou que vous avez eu un collègue comme ça, c'est pas le plus efficace et c'est pas le plus agréable. Mais il y a des moments où nous devons parler. Avi Snyder, notre responsable européen, alors pour vous faire une idée du personnage, il doit m'arriver à l'épaule et ressemble à une pile atomique. C'est un Américain qui a vécu des années en Russie, il est assez influencé par l'esprit russe, il est un peu cash et assez direct. Et pendant plusieurs années, il habitait en Allemagne. Il était en réunion avec un groupe de pasteurs et voici ce qu'il leur a dit. Quelle était l'erreur de l'Église pendant la guerre? Nous sommes en Allemagne donc. Et ils lui ont répondu, notre silence. Vous savez ce qu'a répondu Avi Snyder? Très simplement, que cela ne se reproduise plus. J'aimerais conclure ce point par une chose. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne croient pas? D'après Paul, et c'est aussi ce que j'ai constaté pour une raison assez simple, parce qu'ils n'ont simplement jamais entendu parler de l'Évangile. Ils ont peut-être entendu parler de la Bible, ils ont entendu parler d'Église, ils ont entendu parler de beaucoup de choses, mais le message de l'Évangile lui-même, et je vais venir dessus après, ils ne l'ont jamais entendu. Et voici ce que Paul dit. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Comment entendront-ils parler de Jésus si nous, les chrétiens, nous nous taisons? Donc effectivement, à bon escient, accompagné par le Seigneur, en lui ayant demandé dans la prière de nous donner les bons mots, le bon timing, le bon moment, parlons. Mais parlons de quoi? L'Évangile. L'Évangile, qu'est-ce que c'est? On peut le résumer de différentes manières. Selon la Bible, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli pour nous avant, c'est-à-dire sa vie parfaite, sa mort à la croix, sa résurrection et sa gloire. Et cela pour nous réconcilier avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a vécu une vie parfaite, il est mort, et donc la condamnation qui nous était destinée, c'est lui qui l'a reçue. Il a été ressuscité et il a été rejoindre Dieu pour faire quoi ? Nous préparer une place auprès de lui. On peut le voir dans ce verset. Paul nous dit, et c'est un bon résumé, « Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. » L'évangile se transmet d'une personne à l'autre. Le Christ est mort pour nos péchés, comme les livres saints l'avaient annoncé. On l'a mis au tombeau, et le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. Et en 2 Corinthiens, Paul continue ou complète. Il dit « Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » L'Évangile fait de nous des ambassadeurs. Dieu nous demande d'être ses témoins. Un témoin ne prend pas parti. Il annonce, il explique ce qu'il a vu et vécu. Et c'est ce que nous demande Jésus. Nous ne sommes pas des avocats, nous n'avons pas à défendre Dieu, et nous sommes encore moins des juges qui devons juger ou condamner les autres. Simplement des témoins de ce que Dieu a fait pour nous et pour les autres. Donc, pour résumer, l'Évangile, c'est que Jésus a vécu une vie parfaite. C'était important. S'il n'était pas parfait, son sacrifice n'aurait servi qu'à lui-même. Il est mort à la croix pour payer le prix de nos fautes. Et ensuite, Dieu a confirmé ça, que c'était lui le Messie, en le ressuscitant et en le glorifiant. Et à travers cela, pour ceux qui l'ont accepté, il fait de nous des ambassadeurs. Une des questions fondamentales qui se posent, c'est comment le partager. C'est une thématique que j'ai vue très souvent. C'est-à-dire que une personne demande à un chrétien, en fait, c'est quoi que tu crois ? Puis la personne est un peu, un peu coincée. Mais on a des très bons outils. J'aimerais vous en présenter courtement un qui s'appelle The Four. À l'époque, c'était les quatre points. Dans le monde moderne, on met tout en anglais. Ça se discute, mais c'est comme ça. Ça résume l'Évangile en quatre points, faciles à apprendre. Le premier qui est un cœur, mais c'est la bonne nouvelle. Dieu nous aime. Mais il y a un problème. Il y a une séparation, une division entre Dieu et nous. C'est notre péché. Rater la cible, ne pas faire ce que Dieu attendait de nous. Là, c'est effectivement la partie qui est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement, Dieu a réglé cette division en Jésus-Christ. Nous pouvons être réconciliés avec lui. Imaginez un grand fossé, très long, 30 mètres. Personne ne peut le franchir. Le champion du monde, son longueur, il fait 10 mètres. Donc 30 mètres, personne ne pourra passer. Mais Jésus, on peut imaginer la croix qui se pose dans ce fossé, et en passant sur cette croix, on franchit cette séparation entre Dieu et nous. Troisième point. Et le quatrième est une question que chacun devra se poser, ou que j'espère pour vous s'est posée une fois. Est-ce que nous choisissons de suivre Jésus ? Est-ce que nous acceptons ce cadeau de la vie éternelle ? Dieu nous offre la vie éternelle. Il nous l'attend, mais c'est à nous de la saisir. Cette question, chacun devra y répondre. Un résumé simple de l'Évangile, de manière percutante et courte. je vous ai mis dehors quelques échantillons de matériel qu'on peut utiliser pour les quatre points. Vous voyez, il existe des bracelets. Vous avez vu, c'est un t-shirt que j'ai fait imprimer. Je donne des cours de fitness avec ça. C'est assez neutre. J'ai d'autres qui sont un peu plus percutants. En tant que professionnel, je ne pourrais pas les utiliser. Mais là, on a quatre points, the four, aux gens de se poser des questions ou d'aller voir sur le site. Voilà. Une manière de présenter l'Évangile. L'Évangile, Paul le dit, est une puissance. Le terme puissance qu'il utilise en grec est le terme dynamis. Alors, je ne vais pas vous faire une leçon de grec ce matin, mais simplement, dynamis, ça doit peut-être vous rappeler quelque chose. En français, effectivement, ça a donné la dynamite. Est-ce que quelqu'un a déjà une fois utilisé de la dynamite ? J'ai une fois fait cette expérience en Bolivie. Nous allions voir des mines et un des cadeaux qu'on peut offrir aux mineurs, c'est semi-touristique, semi-soutien, c'est des bâtons de dynamite. Et notre guide nous a permis d'en faire un essai. On a planté le bâton de dynamite dans le sol, donc on l'a enfoncé, j'ai allumé, c'était moi qui ai la possibilité de faire ça, et après on est parti très vite. Je peux vous dire que ça fait un cratère de 2 mètres. C'était pas un gros bâton de dynamite, c'est puissant. Et l'Évangile est très puissant. Paul utilise plusieurs parallèles pour expliquer cette puissance. Mais un de ceux que je préfère, Paul dit que c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus. Jésus était mort et froid. Il était 3 jours dans un tombeau. Selon les cas, on dit qu'au bout de 3 jours, il pouvait même peut-être sentir. Donc, il était en bas. Mais Dieu l'a ressuscité. Et cette puissance qui a permis de ressusciter un mort, elle est en nous. Dieu l'a mis en nous. Nous avons cette force pour témoigner. Cette force, cette puissance est à notre disposition. Dieu vit en nous. La Bible dit que le Saint-Esprit fait ses appartements en nous. Elle nous met cette puissance à disposition. J'aime beaucoup ce passage aux Éphésiens où Paul dit « Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors, vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. » Dieu en nous nous permet de le découvrir toujours plus. Et en parenthèse, une des raisons pourquoi nous aurons l'éternité, c'est pour découvrir un Dieu infini. Ça prendra du temps. Fin de la parenthèse. Il continue, « Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. » Oui, Dieu a des trésors en réserve pour nous. Et il termine, « Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. » Sa puissance et sa force, Dieu l'a montrée dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait s'asseoir à sa droite dans les cieux. L'Évangile a transformé ma vie. Je n'étais ni un criminel, ni un drogué, mais ma vie était vide. Je ne voyais pas le sens, je ne voyais pas ce que je faisais là, et mon cœur était vide. Et près de 15 ans après, je sais vraiment pourquoi je suis là, quel est le sens de ma vie, et mon cœur est plein. Pas plein parce que j'ai pu me marier ou autre, mais plein de l'amour que Dieu a pour nous, pour chacun des êtres humains de cette terre. Il y a un amour puissant qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer que Dieu a pour nous, pour chacun des êtres humains, bons ou mauvais, essayant de le suivre ou pas. Et cet amour est puissant et transforme les vies. J'aime à finir ce point en disant deux choses. Cet esprit que Dieu a mis en nous, Paul le dit à Timothée, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse, ou de maîtrise de soi. Certains termes en grec ont plusieurs sens, et les deux sont possibles, mais un esprit de force et d'amour. Et cet esprit est en chacun de ses enfants. Et là, clairement, non pas en chaque être humain, mais en chacun de ses enfants qui a reçu ce cadeau de la vie éternelle, il est là. Cette puissance est là pour nous. Et cette puissance se voit quand nous manifestons en parole et en acte. J'ai beaucoup parlé de parole, et c'est important, mais les actes le sont tout autant. On dit, et c'est une réalité, ce que vous faites parle plus fort de ce que vous dites. Et c'est juste. Si nous parlons, mais notre attitude, notre comportement contredit, ce sera inefficace. Sans attendre de nous que nous soyons parfaits. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne le suis pas. Et tant que Jésus ne sera pas revenu, je ne le serai pas, et je le sais. Mais j'essaie de faire au mieux, et quand je me plante, je demande simplement pardon. Ça aussi, ça marque les gens. Et j'aimerais arriver au dernier point. Aux Juifs, premièrement. Si vous lisez les Actes, vous remarquez, Paul est assez clair. Au Concile de Jérusalem, il dit « J'ai été envoyé vers les non-juifs ». Et il annonce tout le long des Actes que son ministère est auprès des personnes non-juives. Ce qui a d'ailleurs créé quelques remous. Les premiers chrétiens, dont même Pierre, pensaient que l'évangile ne concernait que les juifs. Jésus lui-même a dit un moment « Je suis venu pour sauver les brebis perdues d'Israël ». Sa mission première était auprès des juifs. Heureusement, pour nous, entre guillemets, ou pour vous, je fais une parenthèse, c'est que, comme vous le savez, ma maman n'étant pas juive, selon un rabbin, je ne le suis pas. Donc après, on ne va pas rentrer dans un débat. D'ailleurs, on dit, où il y a trois juifs, il y a cinq opinions. Donc, la question de qui est juif et qui ne l'est pas, vous aurez beaucoup d'opinions. Je dirais que je me considère, et je reviendrai après là-dessus, comme juif. Mais bon, aux juifs, premièrement, pourquoi ? Si vous regardez Paul, malgré tout ça, qu'est-ce qu'il a fait dans chaque ville ? Si vous suivez les Actes, il a chaque fois été d'abord auprès des juifs. Et quand ils ont refusé, il s'est alors tourné vers les païens. Dans chaque ville, certains l'ont suivi. Ça a constitué les bases des églises. Mais après, il a toujours été vers les non-juifs. Et je crois que c'est quelque chose qui est toujours valable. Il y a toujours une priorité du témoignage auprès des juifs. Et pourquoi ? Je pense que ça concerne cette notion que le peuple juif est le peuple élu. Nous pouvons voir dans le Deutéronome qu'est-ce que c'est le peuple élu ? Élu, simplement, on veut dire choisi. Dieu dit dans le Deutéronome, « Vous êtes un peuple consacré au Seigneur votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être son trésor. » Et Moïse rajoute, « Le Seigneur s'est attaché à vous et il vous a choisi. Mais ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres. » Ailleurs, il dit, ce n'est pas non plus parce que vous êtes meilleur. Au contraire, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Dieu, à un moment, a choisi le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi ? Comme les rabbins, je pourrais vous retourner la question. Pourquoi est-ce que Dieu vous a choisi ? Paul dit clairement, en tant que chrétien, Dieu nous a choisis. Parmi plein d'autres. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a choisis. Nous ne sommes pas meilleurs. Alors vous, je ne sais pas. Moi, j'en suis sûr, je ne suis pas meilleur que les autres. Les Juifs non plus n'étaient pas meilleurs, pas plus nombreux, pas plus puissants. Dieu les a choisis. élu, clairement, ne veut pas dire sauvé. C'est une erreur qu'on voit malheureusement souvent. On entend souvent parler, oui, mais les Juifs ont une autre alliance, etc. Je pose la question, si réellement les Juifs avaient une autre alliance, est-ce que Jésus serait venu? Peut-être pour tous les non-Juifs, mais Jésus ayant dit, premièrement, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël, c'est que la première alliance n'était pas suffisante. On ne vient au Père que par Jésus, le Messie. Il n'y a qu'un seul chemin, que l'on soit juif, grec, barbare, civilisé, homme, femme, enfant, adulte ou autre. Il n'y a qu'un seul chemin. La question va alors se poser, est-ce que cette élection, ce choix de Dieu, est encore valable? Et je dirais de nouveau, oui. Dans Jérémie, je fais une parenthèse, je ne l'ai pas mis ici, nous voyons que Dieu dit, mon choix d'Israël ne pourra cesser que le jour où les lois de la physique ne seront plus valables. Donc, quand les arbres pousseront la tête en haut, ou, enfin, j'image. Mais ça veut dire, tant que le monde durera, Dieu ne rejettera pas son peuple. Si eux l'ont rejeté, parce qu'ils ont rejeté le Messie, ils ont rejeté Dieu, lui ne les rejette pas. Et Paul le dit aussi dans Romains. Bah, c'était une question. Ces chapitres 9 à 11, je vous encourage à les relire, posent des questions très intéressantes. Et il dit, les Juifs ont désobéi à Dieu, etc. Au début, fin du chapitre 10, début du chapitre 11. Et alors il demande, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Sûrement pas. La preuve, dit Paul, moi je suis israélite, de la famille d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a choisi d'avance. Et c'est pour cette raison, je le crois, que le témoignage auprès des Juifs devrait être une priorité pour le corps de Christ. Le témoignage est quelque chose de très important. Mais je crois que Dieu a encore un plan pour son peuple. Je ne sais pas lequel, mais Dieu a encore son peuple comme un fardeau très à cœur. Et le peuple juif est un des peuples les moins évangélisés au monde. Il y a, on compte dans le monde, une quinzaine de millions de juifs, environ. Il y a, selon les chiffres, 200 à peut-être 300 000 juifs messianiques. Très peu. Et je fais une petite parenthèse. Vous avez vu avant passer le nom de Hudson Taylor. Peut-être que ça vous a interpellé. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Hudson Taylor était le fondateur de la mission intérieure pour la Chine, ce qui est devenu l'OMF, Overseas Mission Fellowship, une mission toujours active en Asie. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir avec ça? Hudson Taylor, chaque année, envoyait son premier don à Londres, à une mission qui témoignait aux Juifs. Un des fondateurs de la mission moderne est, qu'est-ce qu'il citait? Romains 1,16, aux Juifs, premièrement. Je crois que c'est un grand homme de Dieu, c'est quelqu'un que j'admire. C'était le premier qui a décidé, je fais la mission, je fais comme ceux que je veux atteindre, je m'habille comme eux, je parle comme eux, j'essaie de suivre tout ce que je peux, tant que ce n'est pas contraire à la Bible. Il a influencé toute la mission moderne. Et son premier don, alors que son fardeau était complètement ailleurs. Lui, c'était les Chinois de l'intérieur qui l'intéressaient. À cette époque-là, en Chine, s'il y avait des Juifs, je pense qu'on n'avait pas besoin des deux mains pour en compter le nombre. Et pourtant, son premier don allait vers cette mission à Londres, qui témoignait auprès des Juifs. Mais c'est la dernière chose que j'aimerais dire. Qu'est-ce que ça amènerait à l'Église de mettre cette priorité? Qu'est-ce que ça nous amènerait en tant que chrétiens? Je pense que ça amènerait une grande bénédiction. Je pense que ça permettrait aussi que la mission première du peuple juif, qui était d'être les témoins de Dieu dans le monde, s'accomplisse. Et que la grande mission que Jésus nous a donnée, de faire de chaque nation des témoins en serait accéléré et facilité, parce que c'est la mission première qu'il a donnée au peuple juif. Mais comme je l'ai dit avant, cette mission ne peut s'accomplir que si le juif en question est devenu messianique, a accepté Jésus comme son Messie. C'est le seul accès qu'on peut avoir à Dieu. Et j'aimerais conclure en disant, oui, je crois que ce sera une bénédiction pour l'Église et aussi pour les nations. En Romains 11, au chapitre 12 et, au verset, chapitre 11, 12 et 15, sa désobéissance a apporté de grands bienfaits au monde et son échec en tant que peuple a apporté de grands bienfaits à ceux qui ne sont pas juifs. Alors, quand les juifs participeront totalement au salut, les bienfaits seront encore plus grands. En effet, quand Dieu les a mis de côté, il a réconcilié le monde avec lui. Alors, quand il les accueillera de nouveau, que va-t-il se passer? Ceux qui étaient morts reviendront à la vie. Ça veut dire aussi un nouvel élan pour tout le corps de Christ. Pour chacun de nous, en tant que chrétiens, pour chacune des églises, c'est un trésor qui est à notre disposition. Et c'est à nous de choisir de s'en saisir. Et j'aimerais brièvement revenir sur ces quatre points. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle, elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, les juifs d'abord, les autres ensuite. Avoir honte, comme j'ai expliqué, simplement se taire. Comme l'a dit Avi Snyder, ne vous taisez pas. Quatre points, Dieu m'aime, le péché me sépare de Dieu, crée une division. Jésus a tout réglé à la croix. Et cette question, est-ce que tu choisis de suivre Jésus? La puissance de l'Évangile qui nous transforme, rappelez-vous que cette puissance est là pour vous. Et le dernier point, aux Juifs premièrement, car ce sera une bénédiction pour le monde et pour l'Église. Voilà. Je vous souhaite une matinée bénie. Je me réjouis encore de vous présenter après Juifs pour Jésus. Et je laisse peut-être ces quatre points quelques instants, si vous voulez encore y réfléchir. Que Dieu vous bénisse.
Nous restons dans le silence quelques instants.